Bonjour à vous qui m'écoutez. C'est un épisode un petit peu particulier puisque pour la première fois, je vais prendre la parole seule derrière le micro. C'est une petite nouveauté 2023, 2024, on vient de changer d'année, 2024. Et donc que j'inaugure aujourd'hui avec vous pour un épisode qui sera à la fois une sorte de bilan de l'année 2023 et une ouverture sur 2024 avec des choses qui vont changer du côté du podcast et de mon activité en général et dont je voulais vous tenir informée. Avant ça quand même, je vous souhaite une bonne année 2024 donc. J'espère qu'elle sera remplie de beaux projets, pas trop. Mais juste assez pour que vous ayez le sentiment d'avancer dans votre vie. Des clients intéressants, des dossiers lucratifs, des projets personnels tous plus chouettes les uns que les autres. Beaucoup de kiff aussi. Bref, je sais pas quels sont vos projets pour 2024. D'ailleurs, si vous voulez les partager avec moi en commentaire ou par email, ça me fait toujours plaisir. Puisque je vais me livrer à cet exercice avec vous, donc ça me donne l'impression d'être moins seule derrière ce micro. Bref, donc, un épisode solo, parce que dans ce podcast, qui va annoncer d'ailleurs d'autres épisodes solo de ce podcast, mais j'y reviendrai un petit peu après. En fait, l'idée de prendre la parole comme ça derrière le micro, c'est que jusqu'à maintenant, j'ai toujours plus privilégié la newsletter pour partager des choses un petit peu personnelles. Et puis ces derniers mois, j'ai eu beaucoup de difficultés à le faire pour plein de raisons. J'ai tenu ma newsletter de manière hebdomadaire, bien sûr, mais j'ai eu plus de difficultés à partager des choses personnelles parce que, il s'est passé beaucoup de choses en 2023 et je manquais beaucoup de recul. Et puis je sais qu'il y a des lecteurs qui n'écoutent pas le podcast et il y a des auditeurs qui ne lisent pas la newsletter. Et donc c'est aussi une manière de m'adapter à vos manières de consommer mon contenu à tous, à chacun plutôt. Et voilà, donc commençons par un petit retour d'expérience sur 2023. Et en 2023, ce qu'on peut dire déjà, c'est que je ne me suis pas simplifié la vie. Je vais rentrer dans le détail de tout ça. Ça a été une année un peu compliquée pour moi, même si elle a été jalonnée de plein de belles réussites, et tant mieux, sinon ça aurait été vraiment, vraiment la loose. Mais ça a été une année compliquée parce que, vous savez déjà en termes de contexte général, mais j'y reviendrai, que depuis, on va dire, début 2022, donc depuis 2 ans déjà, je partage mon activité professionnelle entre Fleur d'avocat, l'entreprise Fleur d'avocat, mais qui en fait est juste le nom de mon entreprise à moi, Lila Louise Maréchaux, on reviendra aussi là-dessus, avec qui est globalement mon entreprise avec laquelle je fais du conseil et de la formation sur des sujets de développement de clientèle, communication, marketing, et une autre entreprise qui s'appelle Iris et Témis, et qui est une entreprise de diffusion d'offres de recrutement, donc on aide les cabinets d'avocats à recruter. Et voilà, donc ça c'est un peu le contexte général. Et si on commence par Fleur d'avocat, en fait Fleur d'avocat ça a été globalement, 30% de mon temps, alors que c'est quasiment 100% de mes revenus. Donc déjà ça plante le décor de la difficulté de la chose. En 2023, j'ai pris la décision de ne pas faire de session de mon programme d'accompagnement phare qui s'appelle Développer sa clientèle. Et normalement, je faisais 2 sessions par an. Et là, j'ai décidé d'en faire qu'une. Et donc, de ne pas faire de lancement de session pour la session qui court d'avril à septembre. Alors, il y a plein de raisons à ça. Déjà, je trouve que avril-septembre, c'est une période compliquée parce que c'est entrecoupé de l'été. Il y a aussi le mois de mai qui est toujours complètement jalonné de longs week-ends, de jours fériés, de choses comme ça. Et donc, je trouve que c'est plus difficile de vraiment retenir l'attention des clients et d'avoir ce sentiment de travail continu et dense pendant 6 mois dans ces conditions. Donc, c'était déjà quelque chose sur lequel je me faisais l'observation. Et puis, en plus de ça, mon compagnon m'a fait remarquer que c'était quand même ballot qu'on puisse jamais partir en vacances hors vacances scolaires, alors que, en fait, on n'a pas d'enfant, donc ce serait un peu le moment d'en profiter. Et ça, c'est pas possible quand j'enchaîne les sessions, parce que, tout simplement parce que j'enchaîne les sessions, donc et puis je me cale en fait sur les vacances scolaires. En tout cas, surtout les vacances scolaires parisiennes, mais je me cale quand même sur les vacances scolaires. Enfin, j'y fais vachement attention, et aussi sur les longs week-ends, parce que j'ai pas mal de clients qui sont parents. Donc voilà, et donc en fait, ça fait que globalement, je suis contrainte aussi par les périodes de vacances classiques. Et puis, j'avoue que je commençais à être un peu fatiguée d'enchaîner les sessions, c'est-à-dire que à peine j'en ai terminé une que j'en commence une autre, c'est-à-dire que j'ai vendu avant de terminer la précédente, etc. C'est quand même un rythme assez dense. Voilà. Et donc, il y avait tout ça. Il y a aussi le fait qu'à l'automne 2022, j'avais engagé une freelance marine pour m'aider à remettre un petit peu d'ordre dans cette formation, à repenser le programme pédagogique, à repenser un petit peu les contenus. Il était temps de faire un glow-up global de la formation, d'actualiser pas mal les choses. Je pensais avoir le temps d'implémenter le plan qu'on avait mis à plat ensemble en parallèle des autres choses, mais évidemment non. Donc je pensais que voilà, c'était bien de faire une pause dans la formation aussi pour me permettre d'implémenter. Bon, en réalité, j'ai été complètement absorbée par le flux du quotidien, et donc j'implémente en fait au fur et à mesure de la session actuelle. Mais voilà, tout ça c'était dans ma réflexion, et donc pas de formation développer sa clientèle entre avril et septembre. Et le truc c'est que cette formation c'est quand même une grosse partie de mon chiffre d'affaires, et donc ça faisait pas mal de chiffre d'affaires en moins. Bon, à la limite ça passait, en tout cas selon le business plan qu'on avait prévu, ça passait. Le seul truc, c'est que j'allais avoir un trou de trésorerie assez important au printemps. Globalement, au moment où j'aurais dû vendre, en fait, donc mars, ça allait me faire un trou de trésorerie. Et du coup, ça n'a d'ailleurs pas manqué de le faire. Hein. Et résultat, en fait, cette histoire m'a vachement stressée. C'est-à-dire que j'ai pris la décision de le faire, mais je me suis retrouvée à faire plein de nuits blanches. Et finalement, à déployer pas mal de travail pour aller chercher du chiffre d'affaires ailleurs, pour compenser. Et donc, rétrospectivement, je me demande si c'était une si bonne idée de ne pas faire cette session de formation entre avril et septembre, parce que je pense que l'énergie que j'ai déployée, un, à m'angoisser pour mes finances, et deux, à aller chercher du nouveau business pour compenser, je suis pas sûre que cette énergie ait été vraiment significativement inférieure à l'énergie que j'aurais déployée pour juste rentrer des clients et accompagner des gens sur cette période. Mais bon, en tout cas, c'est la décision que j'ai prise à ce moment-là. Et donc, ça a été, on va dire, un premier challenge. En revanche, et ça c'est ce qui fait que globalement ça a pu bien se goupiller malgré ce trou de trésorerie qu'il a fallu affronter courageusement, on a lancé en avril dernier la formation sur les honoraires, la détermination des honoraires qui s'appelle, je crois, déterminer une politique tarifaire ou poser une politique tarifaire, en partenariat avec SatQuest, qui est une formation 100% en e-learning qui doit faire 3 ou 4 heures. J'ai oublié les détails, je suis désolée, opérationnels de cette formation, dans laquelle je voulais aborder le sujet spécifique des honoraires. Et cette formation qu'on a lancée en avril a été un véritable succès. Ça a super bien fonctionné en termes de vente. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que ça a aussi bien fonctionné en termes de satisfaction client, puisqu'on a plus de 9 sur 10 de satisfaction client. Pareil, j'ai pas le chiffre exact, mais je sais que c'est supérieur à 9. Donc c'est trop cool. Et ça, sachant que j'ai fait un effort de vente assez... en tout cas, moi, de mon côté, ça a été une seule campagne de lancement. J'ai pas retravaillé sur la vente de cette formation ensuite. Donc voilà, donc franchement, ça a été top. formation que je vous conseille d'ailleurs. C'est un produit dont je suis hyper fière parce que je pense que c'est, on va dire, la synthèse de l'approche positionnement slash enfin positionnement non, mais en tout cas construction d'une offre et derrière toute la réflexion autour de l'argent. Rétrospectivement, je lui ajouterai une vidéo, je pense. Peut-être qu'il faudra que je propose à SideQuest de le faire d'ailleurs. Pour juste préciser une petite chose, c'est le problème avec les, en tout cas moi, c'est mon problème avec mes contenus en général, c'est que sur le principe, on peut scaler, mais en fait, je passe mon temps à avoir envie de réajuster les choses au fur et à mesure que ma pensée se précise et que mon expérience se développe. Et donc, j'ai beaucoup de mal à avoir des contenus qui sont figés parce que je ressens toujours le besoin de revenir dessus. Bref. Voilà, donc globalement, cette formation sur les honoraires, c'est super bien passé. Si je jalonne, on va dire, l'année. Ça, ça a été le lancement d'avril. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé d'autre côté Fleur d'Avocat? Il y a eu le sponsoring, avec notamment la fidélisation de partenaires. Retard de justice par Sagan Avocat, avec notamment Alexandra Sapferi, qui est l'activité qu'a développée Alexandra avec son cabinet Sagan Avocat pour accompagner vous, avocats, et puis les justiciables en direct, en droit du travail, quand il y a eu un retard de justice, à être indemnisé. Et dispositif d'ailleurs auquel je vous invite vraiment, sur lequel je vous invite vraiment à vous renseigner, parce que c'est, j'ai l'impression que c'est complètement sous-coté ce truc, alors que c'est très prometteur, tant pour les clients que pour la justice en général, puisque le postulat d'Alexandra Sapferi, c'est quand même que globalement, au bout d'un moment, l'État va préférer injecter des moyens dans la justice. Pour que la justice soit rendue dans des délais raisonnables, plutôt que de payer des indemnités aux personnes qui ont subi des délais de justice complètement fous de longueur. Donc ça a été un premier partenaire qui est revenu, un deuxième partenaire avec Applicab, qui est porté par la formidable Ganaël Soussan, qui est un logiciel de gestion de cabinet. Initialement, c'était réservé aux procédures contentieuses, et puis maintenant, ça s'est élargi aux procédures de conseil en général. Et globalement, c'est un logiciel qui vous permet de processiser votre activité, donc de créer des process autour de tout ce que vous faites, et donc de gagner en efficacité, évidemment, dans votre travail. Donc ça, c'est un deuxième partenaire qui est revenu. Et puis troisième partenaire. Avec qui on a refait une campagne, c'est Shine, la banque, enfin, je sais pas si c'est une banque, en tout cas, c'est un compte pro. Je crois qu'on peut être un compte, on peut avoir un compte professionnel sans être une banque. Bref, je suis pas dans les détails réglementaires de cette affaire, mais en tout cas, c'est un compte professionnel qui travaille avec plein d'entreprises et notamment avec des professions libérales et notamment avec des avocats, avec lesquels on a donc refait une campagne. Et puis, on a aussi fait un super contenu. En tout cas, les retours ont été vraiment très positifs sur la gestion de ses finances quand on est jeune avocat, et notamment quand on est collaborateur d'ailleurs, du pro au perso. Et globalement, dans ce webinaire, je suis revenue de vraiment la nature de l'argent qui est touché. C'est-à-dire que dans un cas, on a du chiffre d'affaires, alors que dans d'autres circonstances, on aurait une rémunération, un salaire, ce qui n'est pas le même type d'argent. Et donc ensuite, quand on est avocat et donc qu'on a 95% de chances d'être collaborateur libéral, on fait des factures. Et donc ensuite, à partir de ça, de cette enveloppe, qu'est-ce qu'il va falloir déduire pour arriver jusqu'à son argent de poche, qui est donc l'argent dont on dispose vraiment pour vivre et pour se faire kiffer. Ça a été l'occasion de couvrir comment fonctionne la TVA, la question des charges, etc. Et puis aussi d'aborder des grands principes de bonne gestion des finances personnelles pour pouvoir être serein et plus libre demain qu'on ne l'est aujourd'hui. C'est le grand postulat. Donc voilà. Donc ça, c'est un contenu qu'on a fait en webinaire. D'ailleurs, je vous mets le lien aussi en note de l'épisode vers ce webinaire, parce que vous pouvez toujours y accéder en replay. Et voilà, donc en tout cas, des partenaires avec le podcast qui reviennent, donc c'est cool. Moi, je suis très contente de travailler avec ces différents services. Et il y en a d'autres et il y en aura d'autres. En ce moment, nous travaillons avec Supernovia qui accompagne les avocats dans leur communication et leur création de contenu avec un support autour d'une intelligence artificielle générative. Donc, du coup, voilà. Et il y en aura d'autres à venir, évidemment. Donc, en tout cas, des revenus avec le sponsoring. Également, la session de septembre de développer sa clientèle, parce que si je l'ai pas fait, celle qui court d'avril à octobre, j'ai quand même lancé celle de septembre. Donc ça, globalement, les ventes se sont bien passées, même si, alors j'ai vendu 11 places au lieu de 12. Et c'est intéressant, ça a été intéressant de mon point de vue, parce que, en fait, le comportement d'achat était très différent par rapport à la session précédente. Donc il y avait toujours un système de candidatures et j'ai eu plus de candidatures que les fois passées d'ailleurs. En revanche, ce qui s'était passé les fois précédentes, c'est que globalement, une fois que les personnes avaient candidaté, bon, sachant qu'il y avait il y a toujours la possibilité de, si la personne veut me parler de vive voix avant d'acheter, c'est possible, hein. Et en fait, les dernières fois, quand j'appelais la personne pour dire, c'est bon, t'es prise, globalement, la personne achetait dans la foulée. Enfin, il y avait la candidature valait réflexion au simple fait de faire la formation. Alors que là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont envoyé une candidature et en fait qui se sont posé la question de si elles allaient vraiment acheter que au moment où je leur ai dit t'es pris ou t'es prise. Et résultat, c'est vrai que mon processus de vente n'était pas du tout adapté pour ce type de comportement de client, de comportement d'achat du client. Donc c'est toujours intéressant. Enfin, en tout cas, moi, avec mes clients, je travaille beaucoup sur le persona. Comment est-ce qu'ils arrivent à saisir leur persona et ça inclut de bien comprendre quel est le processus d'achat des personnes. Et voilà, il y a un persona, ça évolue. Hein. J'ai entendu d'autres formateurs et vendeurs de formation et de programmes d'accompagnement comme le mien évoquer des observations similaires avec leur audience, donc j'imagine que c'est quelque chose d'assez sociétal qui est peut-être dû à une tension de l'économie ou autre qui fait que les personnes font plus attention avant de s'engager dans un programme assez long terme qui est un investissement financier quand même important. Donc, ça a été une observation. Bon, ça c'est vendre 11 places au lieu de 12, ça met pas en péril mon business, mais c'était une observation intéressante. Et pour le coup, côté profil client, ça bouge pas. C'est toujours principalement des collaborateurs au moment de leur installation, des personnes installées, indépendantes, qui sont installées depuis un petit moment, mais qui veulent remettre au carré leur développement, leur positionnement et leur stratégie de développement. Et des counsel ou seniors dans des plus grosses structures qui rentrent en phase où il faut qu'ils développent, on va dire, leur clientèle et donc qui se mettent à s'intéresser à cette question-là à ce moment-là. Bref, donc en tout cas, session de septembre 2023, ça c'est pour septembre. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi comme source de revenus dans Fleur d'Avocat? Il y a eu la formation en cabinet d'avocat, en gros cabinet, sur des sujets tant, on va dire, de positionnement interne et de stratégie de positionnement en interne pour se développer, quoi, dans un cabinet d'avocat, développer sa carrière dans un cabinet d'avocat. Il y a un mot pour ça, pardon, je l'ai pas en tête, mais le parcours collaborateur dans un cabinet, que autour de problématiques, enfin de sujets beaucoup plus marketing, hein, donc notamment comment utiliser LinkedIn, la question de la marque personnelle, la construction d'une offre, voilà. Donc ça, c'est des choses que j'ai fait dans des cabinets de taille importante. Et puis, je vous disais tout à l'heure que je m'étais retrouvée à, enfin, que en fait j'avais déployé beaucoup d'énergie, un en angoisse et deux en bah, pour aller chercher des nouvelles missions pour compenser le la perte de chiffre d'affaires du fait de ne pas faire la session entre avril et septembre de développer sa clientèle. Et puis bah aussi pour arranger cette histoire de trou de trésorerie et en fait ce qui est intéressant, enfin je sais pas si c'est intéressant, c'est que mes actions de prospection ont absolument rien donné, mais vraiment rien, c'est-à-dire que je pense pas avoir une seule mission qui soit une mission de prospection quoi, où j'ai contacter des gens pour leur dire « Coucou, je peux faire ça pour vous, est-ce qu'on en parle ?» En revanche, j'ai été assez sollicitée pour des choses que je ne proposais pas et que qui n'étaient indiquées nulle part sur mes vitrines virtuelles, enfin des choses dont je parle pas, quoi. Je trouve que c'est ouais, c'est quelque chose d'assez pareil, curieux à observer comment... Parfois, on fait des efforts pour aller chercher de l'activité sur certains aspects. Et puis, en fait, on a de l'activité qui vient toute seule et on se demande un petit peu comment on est identifié sur ces sujets-là en parallèle. Et donc, moi, il y a eu plusieurs choses. Il y a une première chose qui a été le fait de tout simplement faire une prestation pour une avocate qui voulait que je lui fasse une enquête persona. Donc, enquêter auprès de... Non, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Globalement, il s'agissait de un petit peu repenser sa stratégie et elle se demandait un peu vers où aller. Je lui ai dit, écoute, en théorie, on peut faire plein de choses. Peut-être que le mieux quand même, c'est de savoir comment fonctionnent tes clients. Enfin, comment est-ce que tes clients t'achètent jusqu'à maintenant et voilà quel est le profil et quel est le parcours de tes clients pour qu'on puisse voir en fait sur quoi est-ce qu'on va axer nos efforts de développement, parce que l'idée c'est de faire toujours plus de ce qui fonctionne, vous imaginez bien. Donc voilà, et résultat, elle m'a commandé cette enquête persona qui a été extrêmement intéressante à faire. Globalement, j'ai échangé avec une dizaine de personnes, entre 8 et 10 personnes, la majorité étant des personnes qui ont effectivement travaillé avec elle et qui correspondent au profil de personnes qu'elle a envie de plus avoir dans sa clientèle, et quelques personnes qui ont aussi choisi de travailler plutôt avec quelqu'un d'autre pour comprendre comment est-ce qu'elles avaient opéré leur choix. Et voilà, et de cette mission est ressorti un travail aussi sur son site internet. Et donc moi je l'ai accompagnée, alors en réalité dans toute la gestion de projet, mais j'ai aussi et surtout rédigé le contenu du site, et ça c'est quelque chose qui m'a à nouveau été demandé. Alors pour celles et ceux qui se demandent, ce n'est pas une prestation que j'ai vocation à développer. Le fait de rédiger des contenus de site, là, je vais en refaire un pour une cliente, de développer sa clientèle, qui m'a demandé, et j'ai dit oui, parce que comme on travaille déjà ensemble dans le cadre de développer sa clientèle, ce sera pas trop chronophage pour moi de travailler dessus. Mais c'est pas du tout quelque chose que j'ai vocation à développer pour plein de raisons. Mais parmi ces raisons, il y a le fait que un bon site internet, j'en ai fait une newsletter d'ailleurs qui avait eu beaucoup de succès. Un bon site internet, c'est un mélange entre du contenu, donc vraiment le texte que vous allez mettre dans votre site, et du graphisme, du design. Donc ça, c'est les aspects visuels en fait. Comment est-ce que les différents éléments sont placés sur la maquette, quelle couleur, quelle typo, comment est-ce qu'on répartit l'information et comment est-ce qu'on l'habille. Donc ça, c'est le graphisme et le design. Et puis la troisième chose, il y a le référencement naturel. Et puis dernière chose, il y a le développement. Donc vraiment, stricto sensu, le fait de coder ou de no-coder le site. Et je trouve quand même que c'est plus efficace quand vous avez un interlocuteur qui fait toute la gestion de projet plutôt que de réunir une équipe de freelance comme on l'avait fait dans le cas précis de cette cliente et comme va le faire cette deuxième cliente pour plein de raisons. D'ailleurs, elle choisit de travailler comme ça. Mais voilà, moi, j'ai pas vocation à développer ça et je serais ravie de vous recommander des prestataires si jamais vous souhaitez avoir des recommandations de personnes qui peuvent vous accompagner sur tout ce processus d'ailleurs. Mais donc ça, en tout cas, ça a été quelque chose qui m'a été demandé. Une deuxième chose qui m'a été demandée et pour laquelle j'ai été sollicitée, c'est le ghostwriting sur LinkedIn. Donc en bon français, même si c'est pas très beau, c'est quand on est le nègre de quelqu'un, c'est-à-dire qu'on écrit pour les autres. Je sais pas si le français a créé une expression plus politiquement correcte que celle de dire qu'on est le nègre de quelqu'un en 2023. Je me renseignerai sur la question. J'avoue, je l'ai pas fait là en amont de cette prise de parole que je suis en train de faire. Juste sur la base de bullet points, j'ai rien scripté, donc je suis un petit peu en roue libre. Mais bref, donc j'ai globalement écrit des posts LinkedIn pour des avocats. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire parce que je trouve ça hyper intéressant de... Bah, enfin voilà, c'est toujours ce travail de positionnement et de savoir sur quoi est-ce qu'on va prendre la parole que je trouve passionnant. Et la deuxième chose, c'est que écrire pour quelqu'un d'autre, c'est vraiment se couler dans son identité d'expression orale et aller chercher enfin de disparaître pour aider la personne à s'exprimer, à écrire d'une façon qui soit compatible avec les codes de fonctionnement de LinkedIn. Mais aussi d'une façon qui lui ressemble. Il faut qu'on retrouve sa patte, sa manière de s'exprimer bien à elle. Et c'est probablement la littéraire en moi hein, qui se réveille quand je fais ça, mais je trouve que c'est hyper intéressant. Cette recherche de justesse dans l'expression pour arriver à une écriture sur LinkedIn dans laquelle la personne se retrouve, en fait, se reconnaît, se retrouve, avec laquelle elle soit à l'aise. À la fois dans le fond et aussi dans la forme. Donc ça, c'est une deuxième chose pour laquelle j'ai été sollicitée sans en avoir réellement parlé. Et puis, troisième chose, c'est le consulting. Et cette fois, le consulting one shot, c'est-à-dire du one shot, quoi. Une session... pas un accompagnement sur du long terme, mais une session de travail à deux. Et là-dessus, je suis intervenue sur deux sujets et j'avoue que je me restreins à ces deux sujets d'ailleurs. Le premier sujet, c'est le sujet du positionnement. Donc, vraiment, le positionnement, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites, pour qui et à quoi ça sert. Et on met ça à plat. Avec forcément derrière des aspects de stratégie, parce qu'en général, vous faites beaucoup de choses, mais ça ne veut pas dire que vous avez vocation. Pardon. Vous avez vocation, ou en tout cas intérêt, à vous positionner sur tout. Donc voilà, on va justement travailler ce positionnement, aller couper un petit peu dans le champ des possibles pour que vous y voyez clair sur ce sur quoi vous allez axer votre stratégie de développement. En termes de positionnement, en termes de cœur de service. Donc voilà, ça c'est une session de travail qui dure entre 1h30 et 2h que je fais avec des clients en one shot. Et la deuxième chose aussi, c'est du consulting plus conseil de carrière, trajectoire de carrière pour des avocats. J'ai fait aussi pour une juriste, mais qui se posait la question de rejoindre la profession d'avocat. Et donc on en a parlé ensemble. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais pas nécessairement pensé monétiser, pour être très honnête. Et puis Et puis voilà, il y a plusieurs personnes autour de moi qui m'ont dit que je faisais trop de choses gratuitement. Notamment mon mec, que je passais trop de temps à faire des trucs gratuits, que mon expertise avait de la valeur et que mon expertise sur les trajectoires de carrière aussi avait de la valeur et que peut-être qu'au lieu de prendre tous ces gens une demi-heure, une heure au téléphone comme ça, de manière impromptue pour voilà, qui veulent mon avis sur un choix de carrière à un moment donné, ou qui se posent, enfin voilà, qui veulent travailler un sujet avant un entretien annuel d'évaluation, avant un entretien d'embauche. Enfin, c'est vraiment l'aspect collaborateur qui se pose des questions sur la suite de sa carrière et qui veut mon avis sur la question. Et en général, ça se présentait en mode on me contacte sur LinkedIn ou par email et on me demande si ce serait possible de m'inviter pour un café, pour un déjeuner ou si j'aurais un peu de temps par téléphone. Et voilà, et jusqu'à maintenant, j'étais sympa et la plupart du temps, je disais oui. Mais bon, en fait, tout ça prend du temps. Et donc, j'ai testé le fait de dire oui, avec plaisir. Et de proposer une session de conseil que j'ai proposée jusqu'à maintenant à 250 euros hors taxe pour une discussion qui dure entre 45 minutes et 1 heure. Et je dis jusqu'à maintenant, je n'exclus pas d'augmenter ce prix. Et puis en fait, j'ai pas fait les statistiques, mais je crois qu'il y a qu'une seule personne sur toutes les personnes qui m'ont sollicité qui n'a pas suivi. Donc voilà, en fait, à chaque fois, les personnes me disaient, oui, d'accord, go. Et donc voilà, donc ça a été un petit flux de revenus aussi intéressant. Cet aspect consulting, donc avec ces deux casquettes, la casquette sur l'aspect vraiment positionnement marketing, donc ça c'est pour les avocats qui développent leur clientèle ou qui veulent commencer à développer leur clientèle, et l'autre sujet qui est plus trajectoire de carrière, et là on va dire que je m'appuie sur mes plus de 250 interviews d'avocats. Et voilà, et puis mon expérience avec Iris et Témis, mon expertise RH au global. Pour répondre et donner un peu de perspective à ces personnes qui se posent des questions. Donc ça a été toute mon activité côté Fleur d'Avocat. In fine, j'ai pas clôturé mes comptes 2023. Enfin, ils sont évidemment clôturés d'un point de vue comptable, mais j'ai pas fait le point avec ma comptable. Et j'ai une comptabilité qui est un petit peu éparpillée entre plusieurs sources de facturation. Parce que j'ai d'un côté la formation développer sa clientèle qui est facturée depuis mon logiciel de facturation, et puis j'ai d'autres choses qui sont facturées avec un autre logiciel de facturation. Bref, c'est pas mon logiciel de facturation développer sa clientèle, c'est mon logiciel de e-learning. Voilà, donc globalement, ça fait que je me retrouve avec différents flux de factures et j'ai pas encore tout synthétisé. Donc je peux rien vous dire je peux rien affirmer avec certitude, mais quand même au global, normalement le chiffre d'affaires devrait être égal, voire légèrement supérieur à celui que j'avais fait en 2022, ce qui est, ce que j'estime être une énorme réussite, notamment compte tenu du fait que, Fleur d'Avocat et toute cette activité là dont je vous ai parlé, donc. L'accompagnement développer sa clientèle, la formation en cabinet, le sponsoring, évidemment, enfin ça bouge pas, c'est juste le podcast. Et les activités de conseil et de prestations que j'ai pu faire, c'est très loin de représenter 100% de mon temps. Je pense que ça a représenté environ 30% de mon temps, enfin de mon temps de travail. Donc, 30-40% grand maximum. Donc franchement, bravo à moi-même. bravo à moi-même d'avoir maintenu le cap sur le CA dans ces conditions. Encore une fois, rétrospectivement, si c'était à refaire, je pense que je suis pas sûre que j'annulerais la session de développer sa clientèle d'avril à septembre, parce que je pense que j'étais pas assez bien organisée en amont pour le faire. Et que, ça m'a vachement stressée. et le stress, c'est quand même très énergivore. Donc, voilà, rétrospectivement, c'était peut-être pas forcément la meilleure idée que j'ai eue, mais je m'en suis sortie. Et puis j'ai, voilà, comme je vous le disais, en fait, ça a d'une certaine manière ouvert de l'espace pour des choses auxquelles je m'attendais pas, et notamment cette activité de conseil. Et je vais vous parler de comment j'envisage 2022, mais globalement, c'est quelque chose que je prévois de maintenir en 2022, notamment les deux prestations. Un, le one shot conseil sur le positionnement, et deuxièmement, la consultation trajectoire de carrière. Et le ghostwriting est pour un nombre très limité de clients. Bref, je reviendrai là-dessus. Donc voilà, donc ça c'est pour Fleur d'avocat. Et puis, en plus de ça, il y a eu Iris et Thémis. Iris et Thémis qui est donc le service de diffusion d'offres de recrutement en cabinet d'avocat, qui est une entreprise, que je suis pas seule derrière Iris et Thémis, hein, j'ai deux associés, une associée qui s'appelle Déborah Fournet, qui est avocate en contentieux commercial en parallèle, et un associé qui s'appelle Alexandre Coche, qui est ingénieur en innovation, qui globalement fait du design et du no-code, et de la gestion de projets digital en général. Donc on est tous les trois sur ce projet. Et Iris et Thémis, c'est clairement ce sur quoi j'ai passé le plus de temps. Bien évidemment intervenir pour nos clients, et puis deux, communiquer, vendre, gérer et puis lever des fonds, parce que on a décidé de lever des fonds pour plein de raisons, et notamment la première étant que les marges qu'on dégage ne nous permettent pas d'investir en général, et en particulier de nous rémunérer, ce qui fait qu'on privilégie quand même toujours notre première activité. Donc Fleur d'avocat pour moi, et Déborah son activité comme avocate. Et en fait, au bout d'un moment, si cette entreprise veut avoir les moyens de vraiment se développer, il faut que ce soit quand même notre priorité numéro une, en fait. Sinon, on n'arrivera pas à lancer ce bébé. Alors pourquoi est-ce que les marges dégagées sont faibles? C'est parce que on est sur un modèle de plateforme, on va dire. Donc c'est un modèle de masse. C'est pas un modèle de prestation de service avec des marges importantes. C'est un modèle de où globalement ça fonctionne bien à partir du moment où on a un flux de clients important que pour le moment nous n'avons pas encore, mais le business model est basé là-dessus. Et notre parti pris d'un point de vue tarifaire, c'était de proposer quelque chose qui soit plus haut de gamme que les sites traditionnels que vous connaissez, hein, Village de la Justice, Low Profiler, etc., avec notamment des services de communication et de mise en avant de la marque employeur qu'il n'y a pas sur ces sites-là. Mais moins coûteux aussi qu'un chasseur de tête. Parce que un chasseur de tête, les prix, globalement, c'est que la commission tourne entre 15 et 25% d'une rétrocession annuelle d'un collaborateur, avec certains chasseurs et recruteurs qui prennent en plus un forfait fixe de base, d'ailleurs. Mais globalement, ça fait des notes comme on recrute rarement un chasseur de tête pour un junior, en tout cas qui à Paris sont rarement inférieurs à 10 000 euros, 8 000, 10 000 euros pour le recrutement. Et donc nous, notre parti pris, notre pari, c'est de se dire, on va proposer un service qui soit intermédiaire, donc qui soit plus cher que 200, 300 euros pour la diffusion d'une offre sur un Village de la Justice. Ça, c'est sans remettre de l'argent dans la machine, hein, parce que si vous voulez republier l'offre pour qu'elle soit à nouveau en haut, on va dire, du tableau, à chaque fois, faut remettre des finances dedans. Mais en tout cas, pour une seule publication, on est sur ces tarifs-là. Et quand même pas le prix d'un chasseur de tête. Donc ça veut dire que c'est un service intermédiaire. Nous, nos prix aujourd'hui, c'est entre 1200 et 2500 euros hors taxes. Bon, là, je vous parle des prix qui sont sur le point de changer. En réalité, c'est pas la nouvelle grille tarifaire, mais les prix qu'on faisait jusqu'à maintenant, c'était ça. Donc, très clairement, on a des très faibles marges, voire pas de marge du tout pour le premier prix. Et voilà. Donc, c'est un business qui est en tout cas, si on suit notre business plan qui est rentable sur la masse, et d'ailleurs pas dans si longtemps que ça, qui a des bonnes perspectives de marge nette, donc de bénéfices stricto sensu. Mais il faut passer un premier palier de développement, et pour passer ce premier palier de développement, comme ça prend quand même un peu de temps, et si on veut pas que tout soit mangé par notre rémunération, il fallait que on puisse avoir les moyens de se développer, d'où la décision de lever des fonds et d'ouvrir notre capital, hein, parce que c'est pas juste de la love money. On a ouvert notre capital, et je vous disais ça dans le sens qu'est-ce qu'on a fait avec Iris et Tennis. Ben on s'est occupé des clients, on a communiqué, on a vendu, on a refait le site aussi. On a un tout nouveau site, maintenant qui est sorti en octobre, qui nous a pris pas mal d'énergie, surtout Alexandre. On a recruté, bon bref, on a suivi tout ça, et puis on a levé des fonds. Et alors lever des fonds, bah, c'est vrai que tout le monde le dit, hein, que c'est très chronophage, mais en fait c'est encore plus chronophage que ce qu'on imagine. En tout cas du point de vue du point de vue de l'entrepreneur, c'est pareil, à tel point qu'à un moment on a fini par se demander si ça avait été une bonne décision de lever des fonds, parce que globalement entre avril et décembre, ça nous a occupé un temps. Surtout à partir du moment, mars, avril, c'est quand on a fait le business plan, le deck, enfin toute la documentation de préparation. Et puis ensuite, on a commencé à aller chercher des investisseurs à partir de mi-juin. Et ça s'est étendu jusqu'en décembre, avec des périodes plus ou moins actives. Mais bon, moi, globalement, entre juin et juillet, ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup notamment de déjeuner, de verres, de petits déjeuners, de tout ça. Et puis ensuite, à la rentrée encore, et puis on a fait le choix de faire une levée de fonds assez communautaire, dans le sens où le ticket d'entrée était à 5000 euros, ce qui est à la fois beaucoup et à la fois pas beaucoup dans le panorama des levées de fonds. En se disant que Et quitte à lever des fonds, en fait, plutôt que d'avoir 2-3 gros business angels, on préférait avoir une communauté de business angels qui, derrière, bah, en fait, serait autant d'ambassadeurs d'Iris et Tennis autour d'eux. Et voilà. Et donc, les bons côtés de ça, c'est que du coup, on recrute à la fois des investisseurs et à la fois des personnes qui ont intérêt à parler de nous autour d'elles. Le downside de ça, c'est que ça fait des petits tickets, donc ça fait beaucoup de personnes à qui parler, et beaucoup de personnes qui, légitimement d'ailleurs, veulent nous parler pour qu'on leur présente la stratégie, qu'on leur présente la gouvernance, qu'on leur présente le juridique, enfin bref, qu'on leur présente la levée, quoi. Et quelle sera leur participation dans tout ça. Et donc, tout ça, ça prend énormément de temps. Puis ensuite, il faut aller chercher les souscriptions, courir après les gens qui hésitent. Et puis ensuite, il faut qu'ils envoient leur documentation. Et puis ensuite, il faut qu'ils fassent leur virement, etc. Bon, bref, c'est un temps dingue. Et c'est vrai qu'à un moment, on s'est dit, est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de passer ce temps-là vraiment dans les opérations de l'entreprise, à communiquer, à vendre, à faire du fond. Je pense que ça restait quelque chose qu'il fallait qu'on fasse, parce que même si ça a pris du temps, ça nous a permis d'avoir une arrivée de cash importante, et donc de pas compter sur les faibles marges qu'on fait à chaque opération pour pouvoir réinvestir, et aussi réinvestir dans le temps que nous on passe à travailler dans Iris et Tennis en nous versant une rémunération, ce qu'on a quasiment pas fait jusqu'à maintenant. Donc voilà, c'était de toute façon quelque chose dont on avait besoin, mais ça a été une sacrée paire de manches. Donc on a levé 200 000 euros, ce qui est un peu moins que notre objectif qui était de 400 000 euros, donc un peu moins, ce qui est moins que notre objectif qui était de 400 000 euros, mais ce qui est déjà assez dingue, en tout cas moi, autour de moi, à l'époque où, au moment où j'avais un petit peu le moral en berne de pas atteindre notre objectif, il y a quand même un certain nombre de personnes qui m'ont dit, mais meuf, dans le climat actuel, c'est déjà génial de lever 200 000 euros. Et je pense qu'elles ont raison, parce que c'est vrai que l'argent est rare pour les startups en ce moment. Je sais pas si on se définit comme une startup, mais en tout cas, l'argent est rare pour les entreprises et les jeunes pousses qui lèvent des fonds en ce moment. Et puis, sachant que cette levée, on l'a pas entièrement clôturée, puisque on fait un deuxième tour de table, là, ce premier trimestre 2024. Notamment parce qu'on a pas mal de business angels qui étaient chauds pour investir, mais qui ont été rattrapés par les rattrapages d'impôts qui ont débarqué en fin d'année, et les rattrapages URSSAF & Co. Et donc, leur trésor était un peu vide, et ce qui a rendu l'investissement compliqué à décembre. Et qui nous ont demandé quand même de les tenir informés de si on poursuivait la levée sur 2024. Donc, je pense qu'on va réussir à clôturer. Je sais pas si on va atteindre les 400 000. En tout cas, c'est tout ce que je nous souhaite, et on va travailler dans cette perspective. Mais ce qui est sûr, c'est que a priori, ce sera plus de 200 000 euros. Alors, le profil de nos investisseurs, c'est majoritairement des avocats en exercice. Des collaborateurs d'ailleurs, comme des associés de structures, enfin, mais je dis associés, mais aussi des indépendants, donc ou des indépendants, ou des collaborateurs, ou des associés de cabinets structurés, plus ou moins nombreux d'ailleurs, tout type d'exercice confondu, dans le sens de spécialité, avec quand même une petite prépondérance sur le droit des affaires. Je pense que ça s'explique tout simplement par le fait que ce sont des personnes qui sont sensibilisées aux questions d'investissement, aux questions de développement d'une entreprise, aux avantages aussi fiscaux et autres qui découlent du fait d'investir dans une société. Donc voilà, et comme je vous le disais, majoritairement des avocats. On a un profil tech, une juriste en entreprise, un investisseur qui n'a pas du tout qui travaille dans l'immobilier. Un profil tech, je vous l'ai déjà dit, ouais. Mais sinon, c'est sur ces 30 personnes, c'est vraiment une grande majorité d'avocats. Donc je vous disais, la levée, ça a été énergivore, mais c'est en tout cas une première tranche derrière nous. Et ça nous a bien occupé en 2023. Et la bonne nouvelle, c'est que ça va nous permettre donc d'investir pleinement dans le développement d'Iris et Thémis, pour lui permettre de se développer à la hauteur des ambitions qu'on a pour cette entreprise. Et ça inclut de nous investir pleinement, notamment parce que on va pouvoir se dégager une rémunération grâce à cet afflux de cash. Et donc, ça va avoir effectivement un impact sur mon investissement dans Fleur d'Avocat. Et l'activité de conseil et de formation en matière de développement de clientèle. Donc, je vous ai présenté Fleur d'Avocat, je vous ai présenté Iris et Thémis. Et vous le comprenez, ça a été une AD. Et pardon, alors ce que je vous ai pas dit sur Iris et Thémis, c'est que quand même, je vous ai parlé de la levée, je vous ai parlé de ce qu'on a fait. On a fait plein de beaux recrutements. On garde des bonnes statistiques. Là, j'avoue, je les ai pas tirées sur ces deux derniers mois, nos statistiques de recrutement, parce que la clôture de la levée m'a beaucoup trop absorbée. Mais bon, on a vraiment des bonnes statistiques de recrutement pour nos clients. On était à plus de 50% en novembre. Alors que, bah, encore une fois, on est un assez jeune et deux bah, finalement relativement peu connus par rapport aux acteurs traditionnels. Donc, je considère que c'est une excellente statistique à notre niveau, avec bah, voilà, certains de nos clients qui nous disent être assez épatés de ce qu'ils ont réussi à recevoir comme candidature grâce à nous. Et puis donc le nouveau site, ça je vous en parlais. Et côté finance, ben on a doublé notre chiffre d'affaires par rapport à notre premier exercice comptable. Donc voilà, c'est cool. Ça veut pas exactement dire qu'on a tout doublé dans le sens où notre premier exercice comptable il courait que à partir d'avril. Donc c'est pas un x2 stricto sensu à temps passé équivalent si on est tout à fait honnête. Mais voilà, on a quand même une belle croissance en termes de résultats. Enfin, en termes de j'ai pas le résultat sous les yeux. Donc en termes de chiffre d'affaires, stricto sensu, et c'est quand même un très bon signe. Et bien évidemment, bah, plus de clients. Comme on a modifié notre pricing, globalement, on a plus de clients enfin, on a un petit peu baissé nos prix entre 2020, enfin courant 2022. À la rentrée 2022, on avait baissé nos prix et on les a pas encore augmentés. On va le faire là seulement maintenant. Mais voilà, au global, ça reste des bons chiffres. C'est pareil, c'est des choses qu'on oublie un peu de regarder les éléments positifs. Enfin, je sais pas si on, mais en tout cas moi, j'ai la fâcheuse manie de me concentrer sur tout ce qui pourrait être mieux et tout ce que j'aimerais être qui soit différent et d'en oublier toutes les réussites et tout ce qu'on fait bien et tous les signaux qui sont ouverts. Et ça, c'en est un. Donc franchement, disons-le. Je communique pas sur l'identité de nos investisseurs parce que j'ai pas encore demandé aux uns et aux autres qui étaient ouverts, enfin, OK avec le fait de communiquer sur qui ils sont et qui préfèrent investir de façon confidentielle. Au cas où vous vous posiez la question, je sais qu'il y en a qui veulent communiquer dessus, mais voilà, j'ai pas fait ce tour de table. Bon, tout ça pour dire que ça a été une année qui a été quand même très très dense, et dans laquelle il s'est passé beaucoup de choses. Et si je devais rajouter quelque chose à tout ça, ben il y a mine de rien une chose dont j'ai pas parlé, c'est la fête, la Fiesta Fleur d'Avocat 2023. Voilà, parmi les choses que je regrette, et c'est très dur à dire, mais en tout cas, ma casquette d'entrepreneuse regrette un petit peu d'avoir organisé cette fiesta parce que ça m'a consommé une énergie de dingue et c'est pareil, ça m'a vachement occupé l'esprit. Et voilà, et je pense que c'était déraisonnable et en termes d'investissement, de ce que ça m'a coûté financièrement parlant et en termes de ce que ça m'a coûté en termes d'énergie. Après, c'était une très très belle soirée. Voilà, il y a eu beaucoup de monde. Je crois que tout le monde a passé un très bon moment. Vous avez peut-être écouté l'interview préliminaire de Clarisse Beribi qu'on a diffusée fin décembre, qui était une interview que j'avais faite en live à ce moment-là pour lui faire parler un petit peu de elle, sa propre évolution de Bold et puis ensuite à Ether et puis la notion de création d'une marque qui est moi un sujet que j'adore et qui je pense vous occupe aussi. Mais voilà, au-delà de cette intervention qui était la partie on va dire sérieuse de la fête, ça a été une très très belle fête avec voilà du beau monde. Ça a été l'occasion de rencontrer des personnes bah, que j'avais pas rencontrées avec qui j'avais juste échangé sur LinkedIn ou qui m'écoutent dans leur coin et puis qui du coup se sont déclarés, de revoir des invités du podcast, de voir des clients, des investisseurs d'Iris et Témis aussi qu'on avait invités. Donc voilà, ça a été une très très belle soirée, juste le ratio finance, temps passé et occupation de l'esprit était pas hyper favorable, sachant que la fiesta c'était donc le 9 novembre et en fait à ce moment-là j'étais complètement sur les rotules parce qu'on a eu une grosse croissance, enfin on a eu énormément de sollicitations sur Iris et Témis en septembre, donc j'ai travaillé comme une dingue en septembre, et ça a recommencé en novembre, donc pareil. Et donc voilà, donc tout mis bout à bout, c'était franchement hardcore. Alors c'est pareil, ça m'a vachement rassurée. J'ai entendu une entrepreneuse évoquer, enfin deux entrepreneuses, parce que dans quel podcast c'était? C'était peut-être dans le podcast Richissime, l'interview de Aline de The Bee Boost et donc Delphine Pinon, la productrice du podcast et Aline de The Bee Boost, pardon, j'ai oublié son nom de famille, ont évoqué le sujet de l'événementiel. Et ça m'a rassurée. Je me suis sentie moins nulle qu'elles évoquent le fait que, en fait, l'organisation d'événements comme ça, c'est difficile d'en faire une activité qui soit à l'équilibre ou qui dégage des bénéfices, et encore plus d'en faire une activité rentable par rapport au temps que ça demande de faire de l'événementiel. Et voilà. Et donc, je me suis dit que c'est pas moi qui ne savais juste pas organiser d'événements rentables et que c'était aussi un problème de service, quoi. Enfin, de ce que c'est en tant que tel. Et j'avoue que il y a une période où je me suis dit, mais en fait, c'était bien l'époque où j'avançais 250 € pour à l'hôtel Le Pigalle, juste pour plus ou moins réserver l'espace autour de la grande table, là, quand on rentre sur la gauche. Et puis ensuite, les gens payent leurs bouteilles et juste font leur truc, et les gens sont là. Et voilà. Et d'un autre côté, le problème de ça, c'est que du coup, bah, j'avais aucune maîtrise sur le nombre de personnes qui venaient, sur... Enfin, voilà. Et résultat, je me suis retrouvée avec deux événements où, bah, on débordait carrément de cet espace, et puis enfin, à la limite que ça déborde sur la rue, pourquoi pas, mais même ça débordait dans le reste de l'espace qui lui n'était pas privatisé. Enfin, c'était quand même un peu le bordel, et voilà. Et puis je m'étais dit, bon, faudrait quand même plus réussir à réserver des espaces, mais le problème, c'est qu'à Paris, quand on veut privatiser, en fait, ça coûte tout de suite très très cher. Bref, donc j'ai pas tout à fait craqué ce code, et en fait moi je prends pas particulièrement du plaisir à faire de l'événementiel. Donc je me suis dit là que cette année m'avait bien vaccinée, en fait, parce que quand on met les moyens comme ceux que j'ai mis pour organiser une belle fête à l'hôtel, enfin voilà, dans un espace chouette et tout, parce que bah du coup il y a quand même une image de marque qu'on veut dégager. Et du coup, c'est quand même une source de stress. Donc, parmi mes regrets de cette année, il y a le fait de m'être mis ça sur les épaules plutôt que de juste ou ne pas faire de fête, tout simplement. Je sais pas, faire un truc beaucoup plus à l'arrache, mais le problème de ça, c'est derrière que ça a d'autres complications en termes de d'organisation, en fait. Donc je pense que c'était la dernière soirée avant dans très longtemps. peut-être qu'on organisera des événements avec Iris et Thémis, mais en tout cas pour Fleur d'Avocat et sur mes épaules, voilà, je pense que c'était la goutte d'eau en trop que je regrette franchement d'avoir fait, même si j'ai passé une excellente soirée. Je ne regrette absolument pas le moment que j'ai passé. C'était plus en termes de charge mentale, d'énergie globale, de priorisation du temps que je passe à organiser des choses. Je pense que c'était pas la meilleure décision que j'ai faite, que j'ai pu prendre. Donc ça, c'est parmi toutes les choses qui se sont rajoutées. Et puis il y a eu du perso aussi, hein. Le perso, Et tout s'est un peu précipité cet automne, raison pour laquelle j'ai fini en décembre un petit peu sur les rotules, et un petit peu est un euphémisme total. Mais on a un projet d'achat immobilier qui s'est précipité avec mon conjoint en septembre, et donc en fait on s'est retrouvé à travailler là-dessus aussi à l'automne. Ça nous a pris du temps. Et puis dernière chose, et ça c'est plus triste, et vous allez peut-être vous moquer de moi, mais j'assume. J'ai perdu un chat qui m'était cher, qui s'appelait Tigrou, de façon un petit peu inattendue, enfin même carrément inattendue. Et voilà, je suis passée du vendredi au lundi, le vendredi où il y avait bébé, où voilà, où tout allait bien, au lundi où il nous a quittés, et c'est un chat qui m'a beaucoup accompagnée pendant 15 ans, et son décès, on va dire, vous voyez, ça m'émeut encore, son décès m'a beaucoup touchée. Et il est survenu donc en novembre, à une période où franchement, je m'en serais bien passée pour toutes les raisons que je vous ai expliquées, le travail, la levée, les différentes missions. Et ça m'a mis un gros coup au moral. Donc une année compliquée, à la fois mentalement et à la fois juste difficile. Encore une fois, sans oublier toutes les belles choses qui se sont passées et toutes les réussites qu'il y a derrière, tant pour Fleur d'Avocat que pour Elie Sétémis. Ce que je relève quand même en faisant ce bilan, c'est aussi, enfin, du coup, pas mal d'éparpillements, c'est-à-dire que vous avez à peu près saisi la quantité de choses que j'ai pu faire pour Fleur d'Avocat, tout ce qu'on a fait aussi pour Iris et Thémis. Et en fait, c'est juste beaucoup trop de choses. Et derrière cet éparpillement, il y a deux choses. Il y a à la fois, c'est loin d'être très efficace d'un point de vue opérationnel, parce que quand on fait plein de choses différentes, ça fait d'un point de vue juste charge mentale, c'est compliqué. Et puis aussi, c'est difficile d'avoir des process hyper bien huilés pour chaque chose, et donc d'être efficace et de pouvoir faire une bonne amélioration continue de tout. Donc d'un point de vue opérationnel, c'est juste pas efficace du tout. Et c'est aussi pas efficient du tout, du tout, du tout, d'un point de vue commercial, marketing et vente. Et ça, c'est une leçon que je connais, hein, et que je donne à mes clients. Et si vous prenez une session de conseil qu'on travaille ensemble sur votre positionnement, je vais vous demander de vous recentrer, de vous recentrer, de vous recentrer. Et c'est ce que vont faire, je pense, l'immense majorité des consultants et des coachs business avec qui vous allez pouvoir travailler. Tout simplement parce que, en fait, vendre une chose, c'est déjà énormément d'énergie. Mais alors en vendre plusieurs, et en plus plusieurs sur des registres différents. Donc moi, dans mon cas, d'un côté du marketing et de l'autre du recrutement, c'est juste pas efficace, parce que on a quand même un nombre de prises de parole et de temps limité, et du coup, s'il faut vendre 10 choses, ça veut dire que cette énergie qui est disponible pour vendre et communiquer, elle est divisée par 10, alors que si cette énergie-là, on peut la concentrer sur une ou deux choses très précises, vous comprenez que l'impact, il est beaucoup plus important. Donc un éparpillement ni vertueux d'un point de vue efficacité opérationnelle, ni vertueux d'un point de vue commercial, marketing, vente et donc développement d'une entreprise. Et je plaide coupable, hein, je suis vraiment une cordonnière mal chaussée. Et c'est quelque chose dont j'ai beaucoup souffert, en fait, cette année, d'être écartelée entre plusieurs offres côté Fleur d'Avocat, donc côté conseil et formation sur le développement de clientèle, et cette offre de recrutement côté Iris et Thémis. C'est quelque chose dont j'ai souffert, parce que, en fait, au bout d'un moment, je savais plus trop quelle tête représenter. Se poser toujours la question de qu'est-ce que je priorise entre ce qui me fait manger et le projet sur lequel je veux vraiment investir du développement, qui est donc plutôt Iris et Thémis. Ça fait beaucoup de marques à gérer aussi. Iris et Thémis, plus Fleur d'Avocat, plus ma marque personnelle à moi. Parce que, en fait, les gens, ils viennent surtout, en tout cas côté conseil en marketing, ils viennent surtout pour Lila Louise Maréchaux, plus que pour Fleur d'Avocat. Fleur d'Avocat, finalement, c'est beaucoup plus assimilé au podcast. Tout ça, tout ce, cette, cette, cet amas d'activités, cet amas de marques, ça m'a beaucoup pesé. Et donc ça marque pour 2024 quelque chose de simple qui est forcément facilité par la levée de fonds d'Iris et Thémis, mais qui est un impératif de faire différemment et un impératif de faire beaucoup plus minimaliste. Je vais m'appliquer à moi-même les conseils que je donne à mes clients et cette fois vraiment le faire. Beaucoup plus minimaliste, pour être plus efficace, encore une fois, d'un point de vue opérationnel, et pour pouvoir prendre le temps d'avoir des process qui sont bien huilés sur les prestations sur lesquelles je travaille, et raffiner et améliorer. Enfin, tout ce travail d'amélioration continue, hein, pour lequel, c'est juste la question de l'efficacité opérationnelle. Et puis aussi pour une question d'efficacité commerciale et marketing. Donc, qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qui va changer en 2024? Parce que finalement, après le compte-rendu, on va dire un petit peu activité et comptable, après le moment émotion de la disparition de ce petit chat qui m'était si cher, et le bilan un peu global avec ce constat que tout ça n'est quand même pas très efficace. Projetons-nous sur 2024 et comment est-ce que je me projette sur 2024? Donc comme je vous le disais, je me projette différemment, je me projette avec beaucoup plus de minimalisme. Déjà la priorité sera portée sur Iris et Thémis, tout simplement parce que c'est l'entreprise que sur laquelle j'ai envie de parier là, ces prochaines années. Je pense qu'on a un vrai momentum à saisir. Notre hypothèse de départ est bonne. Il y a un marché à prendre pour cet espace intermédiaire, avec une communication de meilleure qualité, avec des offres qui répondent vraiment aux attentes côté candidat, qui permettent aussi aux recruteurs de mettre en avant leur marque employeur de manière beaucoup plus qualitative. Il y a clairement quelque chose à faire là-dessus et le marché nous a déjà suivis en la matière. Je sais plus pourquoi je vous disais ça, mais bref, donc de prioriser Iris et Thémis. Il y aura pas de fête. En tout cas, je n'organiserai pas de fête en 2024. Je serais ravie de participer à des fêtes que vous organiserez vous, mais moi, de ce point de vue-là, pour le moment, je tire le rideau. Je vais arrêter développer sa clientèle. Je vais arrêter de développer sa clientèle. Ben, comme je vous le disais, pour pouvoir me concentrer sur Iris et Thémis, c'est pareil, développer sa clientèle, c'est un programme d'accompagnement. Qui, de par sa composition, avec un mélange de e-learning, un mélange de sessions d'accompagnement collectif et des sessions de conseil individuel, est assez énergivore d'un point de vue gestion et opération. Donc, comme je vous le disais aussi tout à l'heure, en fait, j'ai cette fâcheuse tendance de ne jamais être satisfaite des contenus que je produis. Et de ressentir toujours le besoin d'actualiser mes contenus, mais en fait ça c'est complètement incompatible avec le fait de pouvoir m'investir dans Iris et Thémis comme il se doit. Donc je ne ferai pas de nouvelles sessions de développer sa clientèle en 2024. Après, je sais pas moi si c'est la catastrophe dans Iris et Thémis, c'est que je sais pas pour une raison X ou Y. Je ressens le besoin de réactiver ce service, je le ferai, je me ferme pas la porte à ça, mais a priori je me projette pas là-dessus. En revanche, je vais garder une activité de conseil, mais globalement l'activité de conseil où je vous vends vraiment le mon temps quoi. celle où je vous vends le fait d'échanger ensemble. Ou sur votre trajectoire de carrière, comme je vous le disais, le conseil conseil de carrière, tout simplement quand vous vous posez des questions sur la suite à donner, que vous avez des doutes et que vous voulez mon avis sur la question. Celui sur le positionnement, parce que c'est quand même quelque chose que j'adore faire. C'est pas des choses sur lesquelles j'ai particulièrement communiqué, marketé. Encore une fois, parce que c'est venu un peu tout seul jusqu'à maintenant. Donc, je vais juste mettre un lien vers mon Calendly. Et comme ça, vous pourrez prendre rendez-vous avec moi. Ce sera limité à quelques personnes. Globalement, il y aura maximum 4 personnes par mois pour du conseil carrière, maximum 2 personnes par mois pour le conseil sur le positionnement. Un petit peu de ghostwriting, mais pareil, ça c'est des choses. C'est venu à moi sans que je communique dessus vraiment. Donc je vais continuer comme ça, et ce sera pour un nombre très limité de clients aussi, avec maximum 2 clients par mois accompagnés, pour avoir une activité très minimaliste de ce point de vue-là. Donc ça c'est pour l'activité de conseil que je vais garder. Concrètement, pourquoi est-ce que je garde cette activité de conseil? C'est principalement parce qu'il faut quand même que Fleur d'Avocat continue à générer du chiffre d'affaires. Pour que je puisse, pas reposer entièrement sur Iris et Thémis. Pour que Fleur d'Avocat continue à générer, j'ai quand même quelques frais de fonctionnement avec Fleur d'Avocat. Et je veux pas clôturer la société non plus. Donc l'idée c'est de maintenir cette activité de conseil exclusivement pour que Fleur d'Avocat puisse tourner en mode minimaliste. Autre chose qui découle de cette démarche de minimalisme, c'est le fait que la marque Fleur d'Avocat va prendre un pas de recul. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que globalement, j'ai 3 marques. La marque Fleur d'Avocat, la marque Iris et Thémis et la marque Lila Louise Maréchaux. C'est beaucoup trop de travail. Et puis, en fait, il faut revenir un petit peu en arrière, mais je suis désolée, ça fait un podcast qui est très long. Mais bon, voilà, vous savez tout comme ça. Hein, je fais pas toujours. Et aujourd'hui, je le fais et c'est long. Pourquoi est-ce que Fleur d'Avocat s'appelle Fleur d'Avocat? Et c'est d'ailleurs pas un conseil que je donne aujourd'hui. En fait, quand j'ai commencé Fleur d'Avocat, initialement, c'était qu'un podcast. C'était un nom de podcast, et je crois que j'ai déjà expliqué pourquoi est-ce que ce nom de podcast. Donc je reviendrai pas dessus. Et puis ensuite, quelques mois plus tard, quand je me suis dit « Ah bah tiens, en fait, Fleur d'Avocat, ça pourrait devenir une entreprise. J'ai nommé mon entreprise du nom de mon podcast, et ça me semblait être quelque chose d'extrêmement logique à cette époque. Époque où j'étais tout à fait ignorante en matière de marketing et de communication et de stratégie de développement d'entreprise en général. Et de marque en fait, alors ça aurait été entre guillemets logique si Fleur d'Avocat avait eu la vocation de devenir un grand organisme de conseil ou de formation, ou un grand cabinet de conseil, ou une agence importante, ou un organisme de formation important, comme il y en a d'autres d'ailleurs. Ce qui à un moment était la question, hein, et puis ensuite, je me suis rendu compte qu'un business de formation, c'était, pour toutes les raisons, Calliope et tout, extrêmement pénible, et que j'avais pas particulièrement envie de m'avancer là-dedans plus en avant. Et donc j'ai décidé de réduire Fleur d'Avocat à juste, ce qui recouvre moi mon activité de conseil, puisque du coup entre-temps, je me suis pas mal développée. C'est pour ça que je me suis retrouvée avec une entreprise qui a un nom de marque qui est différent de mon nom à moi, alors qu'en réalité les gens, enfin en tout cas mes clients dans Fleur d'Avocat, ils viennent pour moi, Lila Louise Maréchaux. Et finalement, ce dont je me rends compte, c'est que en termes de service, donc d'accompagnement, les gens viennent pour moi, qu'ils écoutent ou pas le podcast d'ailleurs. Hein, mes clients sont loin d'être des personnes. Enfin, j'ai beaucoup de clients qui n'écoutent jamais le podcast et qui m'ont identifié par ailleurs. Et voilà. Et le podcast, en fait, les gens qui me connaissent via le podcast, c'est surtout les gens qui connaissent le podcast. Plus que l'aspect conseil et formation. Donc, globalement, dans la mesure où je ne suis pas dans une logique de faire grandir l'entreprise Fleur d'Avocat, parce que finalement, c'est une entreprise qui a vocation, en tout cas aujourd'hui, à juste rester, comme vous l'avez vu juste avant, un nombre très délimité de conseils et de formations exclusivement délivrés par moi, en fait, c'est surtout la marque Lila Louise Maréchaux qui a vocation à primer de ce point de vue-là. Et donc voilà, donc du coup, la marque Fleur d'Avocat va prendre un pas de recul, elle va continuer à exister, mais que pour le podcast, finalement, et je vais beaucoup moins communiquer via Fleur d'Avocat et plus communiquer en mon nom. Alors communiquer en mon nom, je le faisais déjà sur LinkedIn, tout simplement parce que l'algorithme est vachement plus efficace avec une page personnelle qu'avec une page entreprise. Mais sur Instagram, par exemple, j'étais à Fleur d'Avocat. Et si vous me suiviez sur, en tout cas si vous suiviez Fleur d'Avocat, mais derrière Fleur d'Avocat, moi, sur Instagram, c'était @ Fleur d'Avocat et j'ai changé là. Tout récemment, c'était avant-hier, je crois, ou avant-avant-hier, pour Lila Louise Maréchaux. Et c'est plus le logo de Fleur d'Avocat, c'est ma tête. Et j'ai encore d'autres changements à faire, mais globalement, le compte Fleur d'Avocat va devenir le compte Lila Louise Maréchaux. Et voilà. Donc c'est plus ma marque personnelle que je vais mettre en avant. Et Fleur d'Avocat va redevenir, entre guillemets, que un nom de podcast, plus que un nom de l'entreprise qui porte les services derrière. L'idée, c'est que avec ce compte Lila Louise Maréchaux, donc ex-compte Instagram et compte, enfin Fleur d'Avocat et nouveau compte Instagram Lila Louise Maréchaux, en fait, je puisse communiquer comme je le faisais spontanément, mais de façon plus logique. C'est-à-dire qu'en fait, le compte Fleur d'Avocat était un peu mon compte perso. Enfin, perso pro. Mais bon, moi, ma vie, c'est quand même aussi Iris et Témis, et pas que Fleur d'Avocat. Et donc, je communiquais sur Iris et Témis via Fleur d'Avocat. Et bon, en fait, au bout d'un moment, je me sentais un peu malhonnête envers mon audience, parce que même si l'audience d'Iris et Témis est notamment venue à Iris et Témis par le biais de Fleur d'Avocat, ça restait deux entreprises différentes et c'est pas les mêmes services. Donc je trouvais que c'était pas très pertinent en fait de continuer comme ça. Et au bout d'un moment, ça finissait par un peu me bloquer parce que je me disais tout ça n'est pas très tout ça n'est pas très structuré et j'ai quand même besoin qu'il y ait de la structure et de la logique derrière ces communications. Donc voilà, donc en fait avec ce compte Lila Louise Maréchaux, je vais pouvoir communiquer sur mes activités et un peu les backstage de mes activités. Je pense que l'activité va être de toute façon réduite, hein, il y aura moins de publications, enfin il y aura beaucoup plus de stories et moins de publications au quotidien, etc. Et l'énergie, je vais plutôt la mettre à développer le compte Instagram de Iris et Témis plutôt que le compte Instagram de Lila Louise Maréchaux. Mais bon, voilà, tout ça, j'espère que vous suivez ce que je veux dire parce que tout ça est encore un peu frais dans ma tête et va être mis en place progressivement. Mais globalement, c'est l'idée. Ce sera mes backstage à moi, Lila Louise Maréchaux. Et il se trouve que je travaille un petit peu dans Fleur d'Avocat et beaucoup dans Iris et Témis. Donc ce compte va le refléter ça et je me sentirai beaucoup plus à l'aise et ce sera pour à mon sens beaucoup plus logique que je partage à travers ce compte des contenus d'Iris et Témis s'il n'est pas estampillé Fleur d'Avocat mais s'il est estampillé Iris et Témis. Pardon, Lila Louise Maréchaux, décidément. La newsletter va rester. Alors, elle va rester depuis le compte, enfin, en tout cas, l'adresse d'expédition reste une adresse Fleur d'Avocat, mais en tout cas, ça reste ma newsletter personnelle. Et c'est pareil, le podcast sera toujours visible dedans. Il y aura toujours un encart pour annoncer le podcast de la semaine. Et ça fait déjà pour le coup un petit moment que c'est le cas. La marque Fleur d'Avocat sera beaucoup moins présente sur la newsletter. Voilà. Et que vous dire d'autre? Bah, ça va amener à plusieurs modifications de mes différentes vitrines en ligne. Sans investir financièrement trop dedans, je vais revoir mon site internet aussi pour que ce soit un site internet Lila Louise Maréchaux plutôt que Fleur d'Avocat. Enfin voilà, j'ai des modifications à faire pour que tout ça soit cohérent d'un point de vue vitrine virtuelle et corresponde à ce qui se passe vraiment dans la vraie vie. Et pour terminer, terminons sur l'évolution du podcast. L'évolution du podcast, globalement, ça va être moins d'interviews pour plein de raisons sur lesquelles je vais revenir dans un instant. Moins d'interviews et plus de prises de parole individuelles, alors qu'elles seront beaucoup moins longues que celles-ci. Là, c'est vrai que je mets beaucoup de choses d'un coup. En fait, initialement, j'avais prévu de faire un épisode bilan 2023 et un épisode comment je vois les choses en 2024. Et puis, je trouve ça plus logique de wrap up dans un seul et même contenu. J'avais peur que ce soit déséquilibré. Bon, bref, je préfère en faire un seul et même contenu parce que globalement, comment je vois 2024 est tellement connecté à ce qui s'est passé en 2023 que voilà. Donc, ce seront des épisodes qui seront moins longs. Évidemment, quand je prendrai le micro de manière solo. Mais en tout cas, ce sera plus d'épisodes solo et moins d'interviews. Globalement, je pense que je vais faire une fois sur deux. Un épisode sur deux, une interview, un épisode sur deux, un épisode solo. Et la raison derrière ça, c'est tout simplement, c'est toujours dans cette logique d'un petit peu me simplifier la vie d'un point de vue opération. En fait, les interviews, ça me demande énormément d'organisation pour recueillir vos recommandations, contacter les personnes. Follow-up ensuite pour l'organisation des interviews, me déplacer jusqu'en interview, réaliser l'interview, envoyer l'enregistrement à Margot qui m'aide à gérer tout ça. Enfin bref, tout ça me demande une énergie folle. Il suffit qu'il y ait... J'ai réussi à garder pas mal d'avance en termes de production d'interviews. Mais ça devient de plus en plus compliqué à mesure que Iris et Thémis, je dois m'investir de plus en plus dedans. Et du coup, j'ai de moins en moins d'avance. Donc, j'ai de plus en plus de stress de production. Et en fait, je peux pas me permettre d'avoir des stress comme ça pour des interviews. C'est pas possible. Donc voilà. Et en fait, il suffit... Enfin, il y a deux moments qui sont toujours assez tendus dans l'année. Qui sont les diffusions de septembre et les diffusions de janvier, tout simplement parce que en juin juillet et en décembre, fin novembre décembre, les gens sont rarement disponibles, enfin sont plus difficilement disponibles pour faire des interviews. Donc du coup j'ai moins d'avance et septembre c'est la rentrée et c'est pareil, janvier c'est la rentrée, donc les avocats sont assez pris quand même par leurs dossiers à reprendre et à rattraper et tout, et donc c'est aussi difficile de les avoir en interview. Donc c'est des moments où je suis en fait assez stressée pour produire, pour faire les interviews de façon qui est déraisonnable par rapport à l'objectif quand même global et là où je dois investir réellement mon énergie. Donc ça c'est une première raison. La deuxième raison, c'est qu'en fait, je sais pas si vous êtes très nombreux à écouter vraiment tous les épisodes. En moyenne, les stats qu'on a, c'est que en moyenne, les auditeurs écoutent 2 à 3 épisodes sur 4. Donc un épisode sur deux, voire un petit peu plus. Et je rencontre beaucoup de personnes qui s'excusent par avance de « j'ai pas tout écouté ». Et moi je suis là en mode « ah non mais c'est vrai qu'en même temps il y en a beaucoup, donc je t'en veux pas de pas avoir tout écouté ». Et donc en fait, ben je me dis que de ces deux informations, je peux réduire la voilure en termes de d'interview et alterner avec d'autres types de contenus, donc des contenus qui sont plus des contenus d'expertise, voilà. Alors je risque de naviguer à la fois sur des sujets RH que derrière on recyclera d'ailleurs pour le blog d'Iris et Thémis. Et à la fois sur des sujets plus positionnement, entreprise, etc. Tout simplement parce que ça me plaît, et puis parce que les choses sont aussi souvent très connectées. Donc voilà, je vais un petit peu varier. Enfin, franchement, je sais pas trop encore comment je vais aborder ces épisodes solo. Je vais me laisser pas mal de marge de manœuvre. Mais voilà, en tout cas, je vais prendre plus la parole en solo. L'idée, c'est aussi derrière tout ça de plus m'affirmer comme, on va dire, experte, experte de mes sujets, pour que ça aille, on va dire, que ça reflète ce pourquoi on vient déjà me chercher en termes de conseils. Et ce pourquoi on me sollicite, et puis pour que ça reflète aussi ce que je vais vendre. Puis la troisième raison, ou quatrième d'ailleurs, je sais plus, c'est tout simplement que je l'ai oublié. Ah si, c'est tout simplement, mais je vous l'ai déjà dit en fait, c'est que j'ai pas mal de lecteurs de ma newsletter qui, je sais, n'écoutent pas le podcast. Et inversement, pas mal d'auditeurs du podcast qui ne lisent pas la newsletter. Et donc en fait, parce que je délivre de l'expertise dans la newsletter, je vais en délivrer aussi dans le podcast. Et en fait, ensuite, à chacun de voir quel est son mode de consommation préféré. Alors, ce sera pas du tout coordonné, c'est-à-dire que je ferai pas un podcast sur le sujet de la semaine dernière de la newsletter ou inversement, parce que pour le coup, ce serait redondant pour moi et voilà, je vais plutôt, je vais sûrement recycler des choses que j'ai déjà dites dans la newsletter ou que j'ai prévu de dire un jour dans la newsletter, dans le podcast. Mais c'est, enfin voilà, ce sera des contenus différents. En tout cas, je pense que ce sera des contenus différents. Encore une fois, je me laisse de la marge de manœuvre pour aborder ces épisodes solo que jusqu'à maintenant je n'ai pas eu l'habitude de faire. On va voir un petit peu comment ça se passe, mais a priori, je prévois pas de faire mon épisode solo sur le sujet sur lequel j'aurai fait ma newsletter ou sur lequel je prévois de faire la prochaine newsletter. Je prévois de distinguer les contenus. Voilà comment je vois les choses pour l'évolution du podcast. Je suis assez curieuse. Enfin voilà, si vous m'écoutez aujourd'hui et surtout si vous êtes allé jusqu'à la fin de ce podcast, c'est probablement que vous êtes auditeur du podcast. Donc je suis assez curieuse de savoir ce que vous en pensez. Vous pouvez m'écrire lilalouise@fleurdavocat.fr ou sur Instagram ou sur LinkedIn pour rebondir sur tout ce que je vous ai raconté et notamment sur cette évolution du podcast que je vous propose. Qu'est-ce que vous en pensez? Que vous dire d'autre? J'ai l'impression que c'est déjà bien, c'était déjà un gros morceau à partager avec vous. Ah oui, si, dernière chose sur cette évolution du podcast. Pour tout vous dire, ça a été beaucoup de réflexion de ma part parce que je suis un peu une psychorigide de la ligne éditoriale. Et voilà, et je tiens beaucoup à l'aspect structure éditoriale, à l'aspect rendez-vous, le fait qu'on sache précisément ce qu'on va trouver dans un podcast, etc. Et donc, pendant longtemps, je me suis... j'ai pas du tout envisagé de diversifier les contenus dans ce podcast. Contrairement à ce que j'ai pu voir chez d'autres. pour cette raison-là, en me disant, bah non, le Fleur d'avocat, c'est un podcast d'interview d'avocats bien dans leur robe et les gens viennent pour ça et c'est ce qu'ils vont y trouver. Et puis, j'ai observé ma propre consommation de podcasts. Et dans les podcasts que j'écoute, en fait, je me suis rendu compte que je prenais beaucoup de plaisir à certains créateurs de contenu à écouter leur contenu, même avec des contenus très différents. Je pense par exemple au podcast Richissime de Delphine Pinon, qui fait des interviews d'entrepreneurs, d'experts sur des sujets financiers, de différentes personnes qui ont des choses à apporter sur la réflexion autour de l'argent et des finances. Et puis elle fait aussi des épisodes solo avec des thématiques différentes. Parfois c'est des bilans mensuels ou des retours d'expérience sur des sujets précis. Parfois c'est des solos d'expertise et tout. Et même si mes modèles absolus du podcast, et j'en ai déjà parlé, hein, ça a été Antonin Archer de Nouvelle École, ça a été Génération Do It Yourself, Mathieu Stéphanie. Même si j'ai eu ces exemples qui sont ceux qui m'ont donné envie de créer Fleur d'avocat, on va dire, et qui ont été mes exemples, je me rends compte que je consomme aussi d'autres podcasts avec plaisir et qui ont une ligne éditoriale moins psychorigide. Et donc je pense pas qu'elle m'écoute, Delphine, mais elle est notamment la personne qui aujourd'hui me sert d'exemple pour m'autoriser à diversifier mon approche dans le podcast, à vous proposer des contenus différents, à varier les supports. Et je suis assez curieuse de voir quelle sera votre réception de ces contenus. Est-ce que vous consommerez les contenus solo ou pas, est-ce que vous les consommerez plus ou pas que les contenus en interview? C'est un grand point d'interrogation. En tout cas, ça mérite que je fasse le test. Et puis pour les explications. Donc c'était un très long podcast. Vous savez tout de mon année 2023. Enfin, vous savez tout de mon année 2023. Vous savez beaucoup de choses de mon année 2023. Vous savez qu'en 2024, je vais maintenir une petite activité de conseil, mais que je vais surtout beaucoup m'investir pour Iris et Thémis. Vous savez que la marque Fleur d'avocat va prendre un pas de recul pour surtout concerner le podcast et que je vais, on va dire, faire évoluer les choses pour plus mettre en avant Lilia Louise Maréchaux que Fleur d'avocat. Donc c'est moins Fleur d'avocat qui héberge Lilia Louise Maréchaux que Lilia Louise Maréchaux qui héberge Fleur d'avocat. Et voilà. Ah si, peut-être dernière chose, j'en profite avec Iris et Thémis. Donc comme je vous l'ai dit, on va beaucoup plus s'investir. On a levé des fonds. C'est pas que pour nous, c'est aussi pour d'autres gens. Je sais pas encore. Comment est-ce qu'on va prioriser les recrutements? Parce qu'on va pas pouvoir recruter tout le monde. C'est une bouteille à la mer, sachant que pour le moment, c'est pas très précis encore qui est-ce qu'on va prioriser. Mais il y a trois recrutements possibles. Il y a un profil marketing.com, et notamment beaucoup de communication sur les réseaux sociaux et de création de contenu en général. Un profil plutôt vente pour me seconder sur la vente, et un profil pour nous aider dans la rédaction des offres et des pages recruteurs. Bref, à s'occuper de nos clients. Donc ça, c'est donc dans un cas marketing.com, idéalement vous êtes avocat, juriste ou ancien avocat, ancien juriste, et vous avez envie de et vous aimez bien la communication et le marketing et vous avez envie de vous reconvertir ou vous vous êtes déjà reconverti d'ailleurs et vous voulez vous investir à nos côtés dans le recrutement. Donc, on sera ravis de travailler avec vous. Pareil pour la vente, la rédaction d'offres, page recruteur. Il faut avoir une sensibilité aiguë et du portrait et de l'aspect un petit peu RH parce que on rédige des offres de recrutement pour nos clients. Donc globalement, voilà, même si aujourd'hui on pourra bien vous former sur ce qu'on attend des offres telles qu'on les rédige, c'est quand même une sensibilité à avoir. Donc si vous vous reconnaissez dans l'envie de faire de la vente ou dans celle de faire de la communication et du marketing pour Iris et Témis ou d'avoir une casquette plus contenu RH pour nous aider à rédiger des offres et des pages recruteurs, eh bien pareil, là vous pouvez m'écrire à lilalouise@irisetemis.com ou sur LinkedIn ou sur Instagram. Bref, je perdrai pas votre CV quoi qu'il arrive. Voilà, ça a été un épisode beaucoup trop long. J'espère que ça vous a intéressé et puis rendez-vous dans un an pour un bilan 2024. Et enfin, j'espère rendez-vous avant de toute façon, mais en tout cas, il y aura probablement un nouveau bilan en 2024 et j'espère pouvoir conclure 2024 en disant que j'ai tenu ma parole envers moi-même du focus, du minimalisme et de mettre fin à l'éparpillement qui a été 2023. Et le tout couronné d'un chiffre d'affaires satisfaisant, tant dans Iris et Témis que dans Fleur d'Avocat. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je ne sais plus si en début de podcast, je vous ai souhaité une bonne année, mais je crois que je vous ai souhaité une bonne année. Donc encore une bonne année à vous. Ça me crève un peu le cœur, mais cette année, je ne ferai pas de carte de vœux parce qu'en fait, la fin d'année a été beaucoup trop hardcore pour moi et voilà. Et je veux pas me mettre dedans pour des cartes de vœux, même si j'adore ce rituel. Peut-être que je ferai des cartes de vœux de mi-année, un petit peu décalées quand les choses se seront mises en place en 2024. Mais là, je pense que ce serait complètement stupide et contraire à toutes mes bonnes résolutions de viser à être un peu plus efficace. Donc, mais non que je ne vous recommande pas les cartes de vœux. Hein, c'est juste que en fait, pour la petite anecdote, jusqu'à maintenant, j'envoyais une carte de vœux à chaque invité du podcast depuis le début, plus mes clients de l'année. Plus des amis et quelques personnes dans l'écosystème. Et donc, en fait, je me retrouvais avec 200-250 cartes de vœux à envoyer, sachant qu'à chaque fois, je mets un petit mot personnalisé. Et en fait, c'est une semaine de travail et c'est pareil, le ratio efficacité, temps passé, argent dépensé n'est pas du tout raisonnable. Donc voilà, je vais faire autrement cette année et réfléchir à comment est-ce que je choisis les personnes à qui j'adresse des cartes de vœux pour que ce soit un peu plus gérable en fait, tout simplement. Voilà. Sur ce, j'en ai bien trop dit. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, là c'est le soir, et une bonne année, et à bientôt, que ce soit sur la newsletter, sur les réseaux sociaux, ou ici même, dans vos petites oreilles. Salut !